Cédric, bonjour.
Bonjour.
Donc, tu viens nous parler d'une journée particulière, une journée internationale organisée par Amnesty International, justement.
Oui, c'est ça. Ça s'appelle les 24 heures d'action urgente. Et c'est une action qui est menée dans le monde entier pour libérer des prisonniers d'opinion.
D'accord. Donc, en France, comme dans d'autres pays, le même jour, j'allais dire presque aux mêmes heures, les gens se mobilisent.
Voilà, enfin, disons qu'on les amène à se mobiliser, on incite la plupart un grand nombre de gens à venir sur un site internet pour agir. Oui.
Donc, qu'est-ce qui se passe sur ce site ?
Alors, c'est un site où sont répertoriés 10 cas. Enfin, cette année, c'était 10 cas de prisonniers d'opinion ou de gens qui subissent donc des abus aux droits de l'homme de la part de leur gouvernement.
Mmh.
Donc, on appelle les gens à venir sur ce site pour envoyer des courriers aux administrations de ces pays qui ne respectent pas les droits de l'homme.
Donc dans le monde, on imagine qu'il y a plus de 10 cas ou 10 pays qui enfreignent ces droits de l'homme. En fonction de quoi vous les avez choisis cette année ?
Alors là, il s'agit essentiellement de donc ce qu'on appelle action urgente. C'est des actions très récentes. C'est des emprisonnements récents, c'est-à-dire des gens qui nécessite une intervention immédiate parce qu'ils risquent dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, une aggravation de leur cas.
Effectivement, Amnesty mobilise ses adhérents, ses militants, ses relations, son réseau, on va dire.
Voilà, c'est ça.
Et les années précédentes, si on fait le bilan de ce qui a déjà été réalisé, ça marche, ça paye, ces interventions.
Oui, c'est étonnant, mais dans 48% des cas, on a une nette amélioration des conditions de détention, voire des libérations.
Mmh.
Donc oui, ça paye, c'est pour ça qu'on reproduit cette action chaque année, vers la même date qui correspond à l'anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui a été signée le 10 décembre 1948.
Mmh. En France, ça mobilise des équipes qui sont structurées.
Oui, alors c'est toute la structure d'Amnesty International, c'est-à-dire qu'il y a des groupes, il y a des sections jeunes, et là, les actions urgentes visent, donc sont organisées, non, pas seulement par les antennes jeunes, mais essentiellement par les antennes jeunes. C'est-à-dire que c'est eux qui vont réaliser tout le travail d'appel à mobilisation.
Alors, il y a des antennes jeunes et il y a des antennes qui ne sont pas jeunes. Comment ça fonctionne un peu, ce réseau Amnesty ?
Voilà, c'est ça. C'est parce que donc il y a les antennes non jeunes sont plutôt appelées groupes. Il s'agit de structures qui sont plus viables, c'est-à-dire qui tiennent plus longtemps. Et on a créé des antennes jeunes parce que justement, le fait d'être jeune, c'est qu'on n'est pas fixé longtemps au même endroit et que des antennes peuvent tomber à l'eau ou se recréer d'une année sur l'autre. Donc c'est assez fluctuant. Donc on sépare les jeunes et pas les vieux, j'ai envie de dire, mais les militants plus confirmés.
Voilà, donc on l'a compris, Amnesty, c'est un réseau organisé internationalement avec des gens qui sont militants et puis aussi des sympathisants.
Oui, il y a énormément de sympathisants. Alors, c'est 1 million de membres à travers le monde, sans compter les sympathisants.
Ces militants et ces sympathisants, là, se sont retrouvés autour d'une journée d'action, mais dans l'année, ils font quoi ?
Ah, dans l'année. Alors, c'est très. Donc, le travail de chaque groupe est très autonome, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de directive de la part d'un groupe central. Alors, évidemment, il existe le Comité international de Londres. Et pour chaque pays, comme en France, le comité national à Paris. Mais ce n'est pas eux qui impulsent l'action de chaque groupe. C'est-à-dire que chaque groupe va, par exemple, mener une action déterminée pour un cas très particulier, comme le Darfour, ou les abus envers les militants des droits de l'homme en Russie, en Tchétchénie, ou partout ailleurs dans le monde, aussi bien aux États-Unis et aussi en Europe.
Alors, tu parlais d'Europe. Si on considère la France, est-ce que les amnistiens français se préoccupent de ce qui se passe en France ou est-ce qu'ils s'intéressent plutôt, par convention peut-être, par ce qui se passe à l'extérieur ?
Alors ça a été très longtemps débattu au sein d'Amnesty International. Est-ce qu'il fallait se préoccuper des questions françaises ? Et en définitive, on s'est aperçu que les droits de l'homme ne peuvent pas être une question... Les droits de l'homme est une question globale et qu'on doit aussi se préoccuper des droits de l'homme en France et que peut-être les sections françaises sont les plus concernées, les plus aptes à connaître le problème français. Donc on s'intéresse maintenant à des problèmes spécifiquement français, comme le droit des femmes, par exemple, ou aussi on a eu des campagnes particulières contre la mise en place du taser, par exemple, qui est une arme électrique. Oui, ce genre de toutes sortes de campagnes dans le même type qui sont spécifiquement françaises.
Alors, est-ce que votre regard s'inscrit dans l'histoire, on va dire ? Est-ce que vous avez un recul sur les évolutions d'un pays, notamment la France, et comment vous voyez cette évolution actuellement ?
Alors, on peut dire qu'il y a dans beaucoup de pays. Alors, je sais si pour le cas de la France, on peut, pour certains points, voir une amélioration, mais aussi, dans le cas, par exemple, des droits des femmes, une certaine stagnation, c'est-à-dire que le progrès n'est pas évident. Et on a encore beaucoup de cas d'abus aux droits de l'homme, aussi bien en France qu'ailleurs. Donc, ça ne laisse pas de bons présages, on va dire. On n'est pas forcément optimiste en termes de droits de l'homme en France.
Si on prend par exemple la situation dans les prisons, la situation des gens qui sont mis en détention parfois longtemps sans être jugés, tout ça, ça vous préoccupe ou non ?
Alors bien sûr, ça préoccupe les militants, mais dans la mesure où on ne peut pas parler d'emprisonnement arbitraire en France, c'est-à-dire qu'il y a des jugements qui sont équitables la plupart du temps, parce qu'on a un système de justice qui est démocratique. Ce sont des cas sur lesquels on ne peut pas réellement se pencher dans le cadre de défense des droits de l'homme. Mais il y a évidemment des cas comme des anciens militants d'Action Directe qui nécessitent une intervention médicale, etc. On peut éventuellement se porter en leur faveur pour améliorer leurs conditions de détention ou du moins alerter l'opinion publique sur leur situation et la situation globale des prisonniers en prison aussi. C'est aussi, ça fait partie des débats actuels d'Amnesty International. Est-ce qu'il faut parler de ça ou pas ?
Alors, les libertés, pour vous, c'est quelque chose d'important ?
Oui, bien sûr. Les libertés, ça s'inscrivent dans la Déclaration universelle des droits de l'homme et c'est une des composantes fondamentales de la société. Et si on ne respecte pas les libertés individuelles aussi bien que les libertés collectives, on ne peut pas espérer avoir une société viable et solidaire.
Alors, est-ce qu'elles paraissent menacées en France, par exemple, ces libertés ? On revient sur certains principes de liberté ou non ?
Alors ça, c'est le risque, c'est de s'inscrire toujours dans un débat politique. Donc évidemment, c'est très délicat. Et alors, sur certains points, oui, on peut estimer, notamment dans le cas du taser, on peut estimer qu'il y a un recul sur le respect de la dignité humaine, oui.
Et sur la liberté d'agir ou...
Sur la liberté, non. Pour l'instant, pas. On est encore optimiste et on n'a pas d'atteinte à la liberté d'expression, à la liberté de parole, à la liberté de se réunir. Donc, pour l'instant, en France, ces questions-là ne sont pas prioritaires.
Et aux États-Unis ?
Alors ça, c'est une grande question. Effectivement, aux États-Unis, on peut parler de menaces régulières envers les libertés individuelles. Mais
par exemple,
donc pour tout ce qui est la durée de garde à vue ou notamment, alors il ne s'agit pas de liberté dans ce cas-là, mais la peine de mort, c'est quand même un grand cheval de bataille d'Amnesty International. Et il s'agit, si on va au bout d'une certaine pensée, on peut dire que la peine de mort est une atteinte aux libertés, oui.
Si on prend des pays comme Cuba, par exemple.
Mmh. Alors Cuba, c'est... On peut pas dire qu'il y ait une bonne situation en termes de liberté à Cuba. Les opposants politiques sont quand même systématiquement enfermés, mis en prison. La liberté d'expression est toute relative, et aussi bien dans la société civile que dans les médias. Donc Cuba est encore un pays où il faut mener un travail pour les libertés.
Alors d'autres pays, par exemple la Chine.
à la Chine. Bah, par exemple, là, on a notamment une grande action qui se prépare. En Chine, il y a énormément d'abus envers les libertés. Énormément. Et c'est un des pays qui respecte le moins les droits de l'homme. Notamment vers les cyberdissidents, ce qu'on appelle les cyberdissidents, c'est-à-dire des opposants au pouvoir en place qui créent, qui écrivent, qui créent des sites sur Internet et qui sont menacés aussi bien par les autorités chinoises que par les serveurs Internet qui dénoncent leurs activités ou du moins ne respectent pas le secret ou la liberté de vie privée, la vie privée de ces gens. Yahoo, Google, par exemple, n'hésite pas à donner les données personnelles des cyberdissidents. Mais ça, ce n'est qu'un cas, c'est un cas actuel qui est en étude. Mais il y a évidemment tout ce qui est... on peut parler des persécutions envers certains mouvements spirituels. Ou envers tous les dissidents politiques en général.
Et si on prend un pays, j'allais dire presque européen, comme la Biélorussie, maintenant République du Bélarus.
Alors la République du Bélarus est une dictature, est une certains disent une des dernières dictatures d'Europe. Et c'est surtout les opposants donc, qui sont persécutés, qui ne sont pas forcément... il n'y a pas d'exécution, il n'y a pas, du moins pas officielle, enfin pas de condamnation grave officielle, mais les opposants sont persécutés, comme on a pu le voir dans les manifestations aux dernières élections de la part de l'opposition, où beaucoup de militants ont été enfermés. Et alors c'est encore un pays très fermé où... qu'on peut visiter, où on peut obtenir des visas, mais où la liberté de circulation est quand même pas totalement garantie.
Alors justement, pour ces pays, est-ce que l'ouverture ou leur ouverture, programmée ou non, peut être un facteur justement d'évolution positive des libertés ?
Oui, on peut l'espérer. On peut espérer qu'en ouvrant leurs frontières, ces pays soient forcés de respecter les droits de l'homme, notamment la Biélorussie qui se trouve quand même au cœur de l'Europe. Mais ce pays-là se trouve dans un cas très particulier parce que donc elle est finalement une pomme de discorde entre l'Europe et la Russie. Et il se trouve qu'actuellement, elle a plus tendance à se rapprocher de la Russie, dans quel cas on ne peut pas espérer une amélioration des droits de l'homme dans la mesure où la Russie elle-même bafoue énormément les droits de l'homme.
Merci Cédric pour ces informations.
Merci à vous.